יפה מבורך. אנחנו מחכים לדפים שנמצאים למטה בבית הכנסת, מרק צריך להביא אותם. אנחנו בדף צדיק זין עמוד ב' במסכת סנהדרין, נכון? Vous m'avez oublié. Ouais. Bon, bonsoir. Nous attendons les feuilles qui sont à la synagogue. Et c'est Marc qui doit les amener. Et nous sommes dans le traité de Sanhedrin à la page 97b. Ou Tzadizayin Amoud Bet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ben, on le saura tout de suite. Attendez, je vais voir ce qui se passe. J'en veux une pour moi. Ça commence par le mot Uva Avonotenu. Ba Avonotenu, Sherabu, Yatsu, Mehe, Mashiyatsu. Et à cause de nos péchés qui sont abondants, alors la période a été ce qu'elle a été. De quoi s'agit-il? Dans la ligne juste auparavant, dans la page d'avant, la Gemara parle des 6000 ans d'histoire. L'histoire se divise en 3 fois 2000 ans, qui est 2000 ans de. Disons de chaos, Alpaim Tohu, Alpaim Torah, je crois qu'on le dira. Alpaim Torah, c'est-à-dire 2000 ans où la Torah est donnée. Alpaim Yomot HaMashiach, 2000 ans où le Mashiach peut venir, c'est-à-dire que l'histoire a déjà toutes les données nécessaires pour réussir. C'est ça, Alpaim Yomot HaMashiach. Et alors pourquoi est-ce que le Mashiach n'est pas venu en l'an 4000, si déjà, 4001? Pourquoi avoir attendu si longtemps? La Gemara dit, Barvonoten ou Sherabou, à cause de nos nombreux péchés, il en est resté ce qu'il en est resté. Ça veut dire qu'il y a un empêchement. C'est-à-dire que quelque chose n'a pas mûri. Mais c'est la période où tout est mûr pour que le Mashiach vienne. Cependant, d'après le Zohar, contrairement à la Gemara, la Géoula ne peut pas venir tant que ne sont pas passés 1000 ans depuis la destruction du Temple. Impossible. Ainsi qu'il est dit, « Netanani shomema kol hayom dava » Il m'a laissé délaissé, il m'a délaissé, je suis tout le jour repoussé. « Kol hayom dava » Kol hayom, yom, c'est un jour, il s'agit donc de 1000 ans, puisque 1000 ans d'Akadosh Baruch Hu. Un jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Et d'après certains kabbalistes, ça voudrait dire en fait que le Mashiach ne peut venir qu'après l'an 5000. C'est-à-dire qu'avant 1240, la Géoula ne peut pas venir. En tout cas, il est vrai que pendant 1000 ans, après la destruction du Temple, c'est-à-dire de l'an 68 jusqu'à l'année 1068, tout allait bien. C'est-à-dire, la Galoute a été dure. C'est-à-dire, sortir en Galoute a été dur. Il y a eu la Grande Révolte. Et après, il y a eu la révolte de Bar Kokhba. Et puis après, ça a été relativement tranquille. C'est-à-dire la période qu'on appelle la période talmudique et la période des Saboraïm et des Géonim, avec bien sûr, par-ci, par-là, quelques malheurs. Je ne dirais pas que ça a été une sinécure, mais enfin, dans l'ensemble, il y a une sorte de tranquillité de la galoute. À tel point même que nous avons le témoignage, dans certains Rishonim, que pendant certaines périodes de l'époque des Géonim, on ne jeûnait pas, par exemple, le 17 Tammuz. Parce que la Gemara dit, Ratsu mit'anim, quand il y a la paix, Ratsu mit'anim, Ratsu lo mit'anim. Il y a eu donc des périodes de ce genre, de relative tranquillité en galoute. Ça a commencé à aller mal avec les croisades. N'est-ce pas? Les croisades. Et la première des croisades, je crois, vers l'an 1160 à peu près, 1165, quelque chose de ce genre, c'est là que ça a commencé, qu'il était en train de se finir les 1000 ans depuis l'exil. Et certains de nos maîtres, par exemple Rabbi Yaakov Emdin, ont dit que les souffrances de la Galoute sont arrivées lorsque c'était le moment de revenir en Eretz Israël. Effectivement, c'est à la même époque donc, où les croisés essayent de s'emparer d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a une première potentialité de reprendre la terre d'Israël aux musulmans, de la donner aux descendants de Esav, Esav étant le frère de Yaakov. Il est censé donner la terre au peuple juif. Il y a une tradition qui remonte à Rabbeinu Haïgaon, qui vivait aussi à peu près à la fin des 1000 ans, dans laquelle il disait « Viendra un jour où les fils de Édom, c'est-à-dire les chrétiens, s'empareront de la terre d'Israël Ils la prendront au Béné Ishmaël, c'est-à-dire aux musulmans, et ils la donneront à Israël. Alors, effectivement, en peu de temps après Ravaï Gaon, il y a eu les croisades. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais plus tard, au XXe siècle, la terre d'Israël a été prise aux musulmans par des chrétiens, et elle a été donnée aux juifs. Et ce qui est surprenant, c'est un enseignement de Rabbi Yitzhak Abravanel, toujours lui, qui dit, qui ramène cette opinion de Rabbeinu Haïgaon, et qui dit, les chrétiens qui prendront la terre aux musulmans, ça sera ce qu'il appelle Malchut Angleterra. Je pense qu'il parle de l'Angleterre. C'est intéressant, comme ça qu'il y avait cette idée déjà que l'Angleterre aurait un rôle à jouer dans le retour d'Israël sur sa terre. En tout cas, ce que dit la Guémara ici, Baravonote nous sherabu yatsiu mashiyatsu. Amarle Eliyahu, le Rav Yehuda Ahoa de Rav Salah Hasida. Eliyahu, c'est-à-dire le prophète, a dit à Rav Yehuda, qui était le frère de Rav Salah, le pieux, En haolam pachot mishmonim vechamisha yovlot. Le monde ne peut pas durer moins que 85 jubilés. Uveyovel Acharon ben David ba. Et lors du dernier Yovel, le fils de David viendra. Ça vous fait combien, 85 jubilés? 4250. N'est-ce pas? 4250. Et ça donne combien en date goy, ça? Ça donne l'année 490. Ça? En l'an 490, donc, ça vous donne la fin des 85 jubilés. Et, hein?
Ah non.
Attends, 4250, la création du monde, ça donne en date goy, ça donne quelle année? C'est fait 400. Non, ça fait 490, désolé. Ça donne l'année 490. D'accord. L'année 490, qu'est-ce qu'elle représente du point de vue juif? Elle ne représente rien. Non, la chute de l'Empire romain, c'est 476. N'est-ce pas? Ça veut donc dire que la Guémara pense que l'Antiquité finit avec l'Empire romain. Et que ça doit finir avant la rédaction du Talmud. C'est-à-dire la clôture du Talmud, c'était en l'an 501. N'est-ce pas? C'est-à-dire 11 ans après la date indiquée par la Guémara. C'est-à-dire entre la fin de l'Empire romain et la rédaction du Talmud, c'est là que prend fin l'Antiquité et que doit commencer l'ère messianique. D'accord? C'est très significatif. Je tiens à préciser que ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Mais d'où est-ce que la Guémara a été tirée ce chiffre de 85? Bon, les jubilés, on comprend. Les jubilés, ce sont des cycles historiques. C'est tous les 50 ans. En tout cas, le cycle économique est remis à zéro. Mais c'est quoi 85 jubilés? C'est quoi 85? Ben, c'est la Guématria du mot. 80, c'est quelle lettre? 5, c'est quoi? Hey. Hey, très bien, voilà, ça on a une première partie. Et pour 80, alors? P, d'accord, voilà. Donc P, hé, ça fait P, la bouche. C'est comme, c'est-à-dire que il y a une parole qui doit s'exprimer. Pour que la bouche s'ouvre, il faut que passe le temps nécessaire pour ouvrir la bouche. Et bien c'est 85. D'accord? À part ça, 85, ça a également une autre connotation, c'est 86 moins 1. N'est-ce pas? 86 moins 1. N'est-ce pas? Hein, bien sûr. 86, c'est quoi? C'est Elohim. N'est-ce pas? La nature. C'est-à-dire, il faut que la nature soit entière. C'est-à-dire, il y a cette idée dans le chiffre de 85, il faut que la bouche s'ouvre, il faut que le cycle naturel soit achevé. C'est comme pour la fête de Pessah. À Pessah, il fallait libérer la parole de l'Égypte. L'Égypte emprisonnait la parole, il fallait libérer la parole qui était prisonnière en Égypte. Apé-Sar. D'accord? Vous voyez que ces chiffres-là sont donc significatifs au point de vue de la Guémara. Amarle, il a demandé, donc Rav Yehuda demande à Eliyahu Hanavi, Bithilato o Besofo. Est-ce que ça se passe au début du 85e jubilé ou à la fin du 85e jubilé? Parce que si ça se passe au début, alors ce n'est pas l'an 490, mais c'est l'an 440. Si on enlève 50 à 490, ça fait 440. Hein? Ça, bon. Amarle, Eniodea. Il lui a dit je ne sais pas. Qui c'est qui a dit je ne sais pas? Il y a où un avis, il ne sait pas? Si lui, il ne sait pas, alors qui sait? Kale ou Eno Kale? Est-ce que le jubilé arrivera à sa fin ou pas? Amarle, Eniodea. Il dit je ne sais pas. Ça veut dire quoi cette histoire? Qu'il y a où un avis ne sait pas? Ça veut dire, si même il y a un avis ne sait pas, hein, alors ça veut dire que quand on arrive au temps messianique, on est dans un autre temps. C'est-à-dire le temps a une autre valeur. Et donc on ne peut pas le mesurer. C'est comme par exemple ce que dit la Torah, de faire la fête du don de la Torah le cinquième jour du Hamer et le cinquantième jour. Or le cinquantième jour n'est pas compté. On ne compte pas le cinquantième jour, n'est-ce pas? Bon. Amarle, Ravashi Amarachi. Ravashi explique de cette manière. Amarle ad hacha latistachile, mikan va'elar istachile. Jusque-là, tu n'as pas besoin de l'attendre, c'est-à-dire jusqu'à l'an 490 ou 440, tu n'as pas besoin de l'attendre. Ça ne sert à rien d'attendre le Mashiach, mais à partir de ce moment-là, attends-le. D'ailleurs, c'est tout à fait contraire à l'opinion populaire, comme quoi le Mashiach. C'est un des fondements de la foi, c'est vrai que le Mashiach peut venir tous les jours. Absolument faux. On dit qu'il y a des processus qui doivent passer. D'accord? Bon. Shalachle, Rav Hanan bar Tachlifa le Rav Yosef. Rav Hanan bar Tachlifa a envoyé une lettre à Rav Yosef. Matati Adam Echad. J'ai trouvé un homme. Uviado Megillah Achat. Et il avait dans sa main un rouleau. Ktuva Ashurit Ulshon HaKodesh, écrit en lettres hébraïques et en hébreu. Amar dilo zo minayin lecha, lui a dit d'où est-ce que tu tiens ce rouleau? Amar li le hayyalot shel romi niskarti, uven gidze romi metzatia. J'étais mercenaire chez les Romains et j'ai trouvé ça dans les trésors de Rome. Vechatuv ba, il est écrit là-bas. Léachar, 4000, ou 291 shana libriato shel olam, haolam yatom. Après 4291 ans depuis la création du monde, le monde sera orphelin. Ah bon? Maintenant, regardez ici une note du Gaon de Vilna. À la place du mot 90, il met 30. C'est-à-dire après 4230 ans de la création du monde, le monde sera orphelin. Pourquoi il change? Ça donne combien en Goy? 4230. Ça fait 471, effectivement. D'accord? C'est-à-dire que le Gaon de Vilna a voulu probablement rapprocher cette date de la chute de l'Empire romain. C'est ça que ça voulait dire. C'est-à-dire, Aolam Yatom, le monde devient orphelin parce que ce qui faisait l'unité politique du monde antique est aboli. Mehen Milhamot Taninim, Mehen Milhamot Gogumagog. Ushar Yemot Amashiach. C'est-à-dire, une partie de ce temps-là sera les guerres des baleines. Taninim. C'est des poissons géants. Une autre partie sera les guerres de Gog et Magog. Et le reste sera le temps messianique. Alors, c'est quoi cette histoire-là des taninim, les poissons? Gog et Magog, je connais un peu, c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, que viendra un temps où il y aura une grande guerre, enfin des guerres, qui amèneront les nations en Eretz Israël, lorsqu'Israël aura retrouvé son indépendance. C'est ça qu'on appelle Milchemot, Gog ou Magog. Mais c'est quoi les guerres des baleines? Des grands empires. Pourquoi les appeler des baleines? Taninim. Tanin, c'est également le nom du serpent. Ça voudrait dire qu'il y aurait des forces obscures qui surnagent, enfin qui en sourdine essayent de surnager. C'est ça, les Milhamot Taninim en question. Mais il semblerait qu'en fait, la Gemara ici fait allusion à un Midrash qui est plus développé dans le Midrash Tanhuma. C'est la guerre du Léviathan, à la fin des temps. Ouais, la guerre du Léviathan. C'est quoi la guerre du Léviathan? C'est quoi le Léviathan d'abord? C'est un énorme poisson, plus grand qu'une baleine, puisqu'il soutient des continents entiers. Et c'est une bête sauvage, quoi, une sorte de poisson énorme qui est au fond de la mer. Le monstre du Loch Ness à côté de ça, c'est rien du tout. Et parfois, quand ça gratte un peu le dos du Léviathan, alors il y a des tremblements de terre. C'est d'ailleurs comme ça que les Japonais expliquent les tremblements de terre qu'il y a au Japon. Ils disent que le Japon est sur un énorme poisson qui de temps en temps bouge un peu. Quand ça le gratte dans le dos, comme ça, là, tac. En tout cas, la Gemara dit que viendra un temps où, à la fin de l'histoire, Akadosh Baruch Hu fera une grande guerre de cirque. Il amènera dans le cirque, sur les tribunes, les tzadikim. Et dans l'arène, il y aura le Léviathan et le Behemoth. Le Behemoth, appelé également Shorabar. Le Behemoth, c'est une sorte de bête gigantesque, qui a une forme de bœuf, qui broute tous les jours l'herbe de 1000 montagnes. Ainsi qu'il est dit dans les livres de Tehilim, Behemoth, Peharere, Aleph. C'est-à-dire, le Behemoth est dans des montagnes au nombre de 1000. Donc c'est une énorme bête. D'ailleurs, Harere Aleph, ça veut peut-être dire les Alpes. Les Alpes, oui. Les Harere Aleph. Mais en tout cas, et on les mettra tous les deux dans l'arène, et le monde tremblera parce qu'ils feront un vacarme absolument incroyable. Mais les tzadikim seront là-bas pour regarder, sur les tribunes. À la fin du combat, le Léviathan introduira ses nageoires dans la gorge, dans le cou du Béhémoth, et le Béhémoth mordra le Léviathan. Et les deux mourront ensemble, et alors les tzadikim descendront dans l'arène et se nourriront de la chair de ces deux animaux. Superbe, hein?
Sans shrita.
Sans shrita. Alors là, le Midrash demande. Et alors, il y a la shrita, alors. C'est vrai que, bon, le Léviathan, c'est un poisson, il n'y a pas de problème. Mais le Behemoth en question, eh bien, le Midrash dit Torah me'iti tetse, hidush Torah me'iti yetse. Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle Torah qui sera donnée, qui autorisera de manger de cette manière. Bon, alors là, les problèmes théologiques que ça soulève sont absolument énormes. Mais avant de répondre à ces problèmes-là, j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est que le Léviathan et le Behemoth et pourquoi est-ce qu'il y a des tzadikim dans les tribunes qui regardent toute cette histoire. Comment ? Ils sont pas à la Yeshiva, donc ils sont en train de manger des pépites. Ils regardent tout ça. Donc, alors, c'est probablement à cette histoire-là que la Gemara fait allusion. Alors, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Je voudrais vous ramener celui du Rav Kook, parce que le Rav Kook a l'avantage d'avoir toujours raison. Alors, selon le Rav Kook, il s'agit de la chose suivante. Il y a deux formes. On avait étudié, je crois, déjà ce thème à notre. On avait étudié ça, n'est-ce pas? Dans le cadre de cette étude-là? Un Shabbat, oui. Sur deux sortes de Kedusha, n'est-ce pas? Il y a une Kedusha, une sainteté qui est dans la nature, et une Kedusha qui surmonte la nature. Alors, la Kedusha qui est cachée dans la nature, c'est le Léviathan. De même que c'est comme un poisson qui est caché dans l'eau. Donc, ce qui est souterrain, enfin, ce qui est submarin, plus précisément, sous-marin. Sous-marin, ça, c'est quelque chose de caché. C'est la sainteté, la vitalité qui se cache au fond de la nature. Elle est violente, cette sainteté, mais elle existe. La sainteté que le Rav Kook appelle la sainteté habituelle, La sainteté habituelle, c'est celle des religieux. Elle domine la nature, elle est comme le béhémoth qui dévore l'herbe des mille montagnes à la fois. D'accord ? Il viendra un jour où il y aura une lutte entre les tenants des deux formes de sainteté. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est le conflit entre Dathim et Chilonim qui aura lieu ce jour-là. Et le monde entier tremblera. Mais ce que dit le Rav Kook, c'est que ni l'un ni l'autre ne pourra gagner. Parce que les Chilonim, ils devront gagner, ils vont essayer de lutter contre la sainteté qui domine la nature, mais il y a également un élément naturel dans cette sainteté qu'ils ne peuvent pas dominer. Et de même, les religieux essayeront d'annihiler la puissance de la nature, mais il y a une sainteté dans la nature qu'ils ne peuvent pas également mépriser. Ce qui fait que ni l'un ni l'autre ne pourra gagner. Tout le monde aura peur, sauf les tzadikim. Qui sont les tzadikim? Ce sont les grands tzadikim. Ceux qui sont capables de supporter, de voir ce conflit, et qui au contraire se réjouissent de le voir, parce qu'ils devinent qu'à travers ça, l'unité des deux formes de sainteté est en train de se faire. Voilà, tout simplement. Bon, tout ça c'était donc le premier point. Donc c'est ça les milchamot talinim, probablement. C'est quoi les milchamot Gog ou Magog?
La peau du Léviathan,
ça va la peau du Léviathan, elle servira de souka. Ouais, on lui fera la peau. Et pourquoi ça sert? Parce que la peau du Léviathan, la peau, c'est ce qui est rejeté d'habitude, c'est ce qui rend opaque. Mais viendra un temps où cette peau servira, elle sera réintégrée.
Par-dessus,
oui, en tout cas comme ça. D'après le Zohar, il s'agit de la peau du serpent, en fait, du premier serpent, qui va servir donc à la sainteté, alors qu'elle ne sera plus en conflit. Voilà, c'est ça l'histoire du cirque. Alors vous êtes invités donc à prendre vos billets à l'avance pour aller voir le cirque en question. Mehen milhamot Gog ou Magog. Une autre partie, ça sera les guerres de Gog et de Magog. C'est quoi les guerres de Gog et Magog? Eh bien, c'est que il y a un conflit entre Israël et le reste du monde. Parce qu'Israël est au-delà de la nature et que les nations viennent au nom de la nature, et donc ça va créer une conflagration qui sera l'achèvement du conflit. D'accord? Maintenant, oui? J'en sais rien. En tout cas, Gog et Magog, il y a ici un pluriel, Milchemot Gog ou Magog, les guerres de Gog et Magog. Alors, il y a des textes du Midrash qui nous expliquent qu'en vérité, il y doit y avoir trois guerres de Gog et Magog. D'après les Midrashim, la première a pour résultat la division de Jérusalem. La deuxième a pour résultat l'unité de la terre d'Israël. Et la troisième est une guerre diplomatique. Intéressant quand même. Donc, ça veut dire qu'on en a passé déjà les deux tiers. Ush'ar, et ce qui restera Yemot à Mashiach, ça sera les temps messianiques. Bon, tout ça, c'est ce qu'il y avait écrit dans le rouleau en question, en lettres hébraïques, que le soldat mercenaire avait trouvé dans les trésors de Rome. Mais on vous y croyait, à ce rouleau-là? On ne sait même pas qui c'est qui l'a écrit. On ne sait même pas ce que ça veut dire, parce que ça ne veut rien dire. En tout cas, la Gemara, elle l'amène. Ça veut dire que ce rouleau exprime une tradition, quand même, qu'il y avait en Israël, qui a été écrite quelque part. Ven Akadosh Baruch Hu mechadesh et olamo, et le Saint béni soit-il ne renouvellera son monde, et là le'ahar shivat alafim shana, qu'après 7000 ans. C'est-à-dire 7000 ans depuis la création du monde, ce qui correspond à l'enseignement qu'on a vu au nom de Rav Ketina, que le monde dure 6000 ans et qu'il y a un millénaire qui correspond au Shabbat. N'est-ce pas? Oui? Quoi encore?
Mais qu'est-ce que ça va être pendant 7000 ans?
Pendant 6000 ans? Bon, on avait vu ça il y a trois d'Apim, que pendant 6000 ans-là, eh bien, le monde sera recouvert d'eau, et les tzadikim auront des ailes, et ils planeront à la surface des eaux. Tu y crois? Nous, on est parmi les tzadikim, non? Enfin, vous, en tout cas. Hein? Moi, j'en sais rien, mais... Comment? Tu y crois pas tellement, hein? Oui, c'est allégorique. Alors ça veut dire quoi? Le Rambam explique dans le Moré Nevouchim que ça veut dire que le monde sera tranquille. Et lorsque le monde est tranquille, En fait, il se transforme en secret. Et ça veut dire que vient un moment où il faut être capable de traverser cette transformation. Et les tzadikim ont cette capacité de passer les périodes de transition. C'est-à-dire qu'ils auront des ailes. Ça veut dire. D'accord ? C'est-à-dire souvent, quand il y a une période de transition, c'est très dur à traverser. Mais les tzadikim, eux, comprennent ce qui se passe. Donc ça ne les dérange pas. Là, ça veut dire.
Oui.
Oui. Rav Aha Bere de Rava, Amar. Rav Aha, fils de Rava, disait Leahar Hameshet Alafim Shana, c'est-à-dire après 5000 ans. C'est-à-dire que pour Rav Aha, à partir de l'an 5000, on est déjà dans un nouveau monde. Oui. Ça s'est passé donc en l'an 1240. C'était au temps du Ramban. En 1240, Jérusalem était dévastée. Il n'en restait pratiquement rien après l'invasion mongole et l'invasion tatare. D'accord ? C'est ça qui s'est passé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à reconstruire Jérusalem. En cette année-là, le Ramban arrive à Jérusalem. Il y trouve une ville déserte avec trois familles juives. Et il dit, j'ai pris une maison vide. De toute façon, toutes les maisons sont vides, on prend ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'il a construit la synagogue, la célèbre synagogue du Ramban, qui est aujourd'hui sous la Hourva, où dont les colonnes appartiennent à l'époque byzantine, Birlab. C'est une réutilisation de colonnes anciennes qui a servi à ça. Donc c'est à partir de l'an 5000, c'est là que recommence, c'est le creux de la vague, ça se passe en l'an 5000. À partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu Mechadesh et Olamo, il y a le retour en Eretz Israël qui commence. Et depuis, ça n'a pas cessé, oui. Ça, c'est la première opinion. Ça, je parle de la deuxième. Rav Aha Bere de Rava. Il y a deux lignes différentes.
Ça commence en
4000. Je comprends pas. Il dit comme ça.
La première opinion,
7000 ans à partir de quoi ? De la création du monde. C'est-à-dire, il y a 6000 ans, comment ? Non, il y a un renouveau du monde après 7000 ans. C'est bien après les Yemot HaMashiach. C'est-à-dire, le temps messianique, c'est un temps d'indépendance politique qui est utilisé pour construire le Beth Amikdash, amener la paix universelle, le retour de la prophétie, etc. Qu'est-ce qui se passe après ça ? Ben, après ça, il y a un renouvellement du monde. C'est-à-dire qu'on entreprend une nouvelle mission historique, un nouveau cycle. C'est ça ? Ça s'arrange bien avec ce qu'on appelle le système des Shemitot. Qu'on avait vu la semaine dernière. Itmar. Non, Itmar, point. Tania, on a enseigné. Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan disait Mikrasé, ce verset, Nokev veyored ad tehom. Perce et descend jusqu'à l'abîme. Kiod hazon la moed. Il y a encore une vision après le temps. C'est-à-dire que le temps n'est pas le dernier temps. Il y a encore quelque chose à attendre. Vifeach la quête. On espère la fin. Velo yechazev. Il ne mentira pas. Imitma mea. S'il s'attarde. Hakelo. Attends-le. Kibo yavo lo yacher. Car il viendra. Il ne sera pas en retard. Bon alors, c'est quoi ce verset ? Ben, ce verset nous dit d'être patient, de manière générale. C'est ce que dit Habakkuk, au chapitre Bet. Lo kerabotenu, ceci contredit l'opinion de nos maîtres, Shayu Dorshin, qui interprétait Ad Aidan, Aidanin ou Flag Aidan, jusqu'à ce que passe une ère et des airs et une demi-ère. Ça, c'est un verset dans Daniel, je crois, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça traîne ? Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Oui, je rappelle que le cours commence à 9h15. Oui. Bon. Donnez des feuilles, là, il y a des feuilles pour tout le monde. Oui. Donc, ce que nos maîtres enseignaient, ils faisaient des calculs basés sur un texte de Daniel. Daniel donne des dates. Oui, ce verset. Oui, d'accord. Que faire? Bon, ce n'est pas écrasé. Oui.
Il y a eu une connexion entre le Corban et le 5e
millénaire.
C'est vrai qu'un côté un petit peu.
Passif. Oui, c'est du passif. Oui.
Mais qu'est-ce qu'on dit quand même une sorte de l'échappatoire que.
Oui.
Que le machin vient, ça ne marchait pas pour l'époque?
Ben non, ça ne marchait pas. Ils n'avaient qu'à attendre patiemment. Et on voit à l'époque quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'à l'époque en question, l'empire musulman s'étendait depuis l'océan Atlantique jusqu'en Inde. Eretz Israël et Babel étaient sous le même empire. Et les juifs de Babel ne faisaient pas leur alia. Ils restaient là-bas. Et ils avaient le sentiment que ce n'était pas encore le moment. Alors que ce n'était pas impossible de faire son alia à l'époque. Et à l'époque d'ailleurs, les Karaïtes, eux, faisaient souvent leur alia. Les Karaïtes reprochaient ça aux Rabbanites, justement, d'avoir abandonné Eretz Israël. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah, c'est ça. Lo kerabotenu, donc, ce verset entre en contradiction avec les calculs de nos maîtres. Lo kerabotenu, pas comme nos maîtres. Shayu Dorshin qui enseignait, Ad, Idan, Idanin ou Flag Idan, qui interprétait le verset qui dit, jusqu'à une heure, et des heures, et une demi-heure. C'est ça? C'est-à-dire qu'il faisait des calculs. Velo kerabi simlai. Et non pas non plus comme Rabbi Simlai, Shaya Doresh, qui interprétait Echaltam lechem dim'a vatashkemo bidma'ot shalish. Tu les as nourris de pain, de larmes, tu les as abreuvés de larmes d'un tiers. C'est quoi un tiers? Donc il faisait un calcul, un tiers par rapport à tant de temps, etc. Il faisait des calculs messianiques. Velo ke Rabbi Akiva, et cela est contraire également à ce que faisait Rabbi Akiva. Shaya Doresh, qui interprétait Od Ahat Me'ati, ce n'est encore qu'une seule, un peu, elle sera Va'ani Mar'ish et Hashamayim et Ha'aretz, et je ferai trembler le ciel et la terre. Et la Malchut Rishon Shivaim Shana, le temps du premier empire, c'est l'empire de Babylone, sera 70 ans. Malchut Sheniya Hamishi Mushtaim, le deuxième empire, il s'agit de l'empire perse, règnera 52 ans. Malchut Ben Koseva et le royaume de Ben Koseva, c'est-à-dire Bar Korva, durera chez Teshanim ou Mechetza, 2 ans et demi. C'est-à-dire, quelle est donc l'erreur de Rabbi Akiva? C'est d'avoir pensé qu'il pouvait amener le Mashiach avant l'an 4000. La guerre de Bar Korva, c'est encore pendant le 4e millénaire. Il aurait dû attendre. Maï vifer la caisse de l'Oichazev, ça veut dire quoi? Il faut attendre la fin, elle ne décevra pas. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel Bar Nachmani enseignait au nom de Rabbi Yonatan, Tifah Atzman Shel Mechashve Kitzim, que soient mis en poussière les ossements de ceux qui font des calculs de fin des temps. Et si, pourquoi tu barres tout ça?
Oui.
Personne n'est d'accord avec l'autre. Oui. Alors c'est intéressant, il y a un texte de Rabbeinu Sadia Gaon dans le Emunot Vedeot où il calcule quand est-ce que viendra le Mashiach. Oui. Comment t'as dit ça? Lui aussi. Alors le Rambam, qui vivait 300 ans plus tard, dit, ce qu'a fait notre maître Rabbeinu Saadia est interdit. On n'a pas le droit de calculer le temps où viendra la Géoula, mais si Rabbeinu Saadia l'a fait, c'est parce qu'il voulait réconforter le peuple et leur dire, vous en faites pas, c'est bientôt. C'est-à-dire parce qu'il voyait que la galoute était longue, alors il fallait réconforter le peuple, alors pour ça, il a quand même fait un calcul. Mais de toute façon, son calcul est faux, puisque le temps est passé. Mais moi, dit le Rambam, moi je connais le calcul et je vais te le dire. Mais Attention, il dit, c'est pas, je ne calcule pas quand est-ce que viendra la Géoula, parce que ça, on n'a pas le droit, mais je calcule quand sera renouvelée la prophétie. Ça, ce n'est pas interdit. Or, le renouvellement de la prophétie est à peu près proche du temps où, où viendra le Mashiach. Donc ça, je peux te le dire. Il se base sur une interprétation qu'il tient de sa famille depuis le temps où ils avaient quitté Jérusalem, dit-il. Hein, très joli. Mais non, le temps signalé par le Rambam est passé. En fait, le Rambam dit, le Rambam n'a rien compris, c'est moi qui ai raison, il donne le calcul. Mais non, le calcul du Rambam s'est révélé faux. Et de temps en temps, il y en avait comme ça des calculs, par exemple, au XVe siècle, beaucoup avaient calculé que la Géoula viendrait en l'année 1492. Oui, 1492, c'est l'année de l'expulsion des Juifs d'Espagne et de la découverte de l'Amérique, et de la conquête de Grenade, la fin de la Reconquista. Oui. Oui, c'est possible aussi. Aïm, Arochokim, ça peut être effectivement les îles lointaines, ça peut être l'Amérique. Oui, il y a certainement des rapports, parce que effectivement, depuis l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu d'ailleurs il y a eu quelque chose d'assez surprenant, c'est la date où a été signé le décret d'expulsion. Hein? Le 5 Iyar. Le 5 du mois de Iyar. Et la date de l'expulsion, c'était quoi? Tisha B'Av. C'est ça? C'est-à-dire qu'il faut choisir soit le 5 Iyar, soit Tisha B'Av. C'est-à-dire, c'est comme si le roi d'Espagne disait, bon, ça va, c'est fini, vous n'avez plus besoin d'être chez moi, partez. Alors c'est le 5 Iyar que ça se passe. Donc c'est pas vraiment rien, cette histoire de l'expulsion des Juifs d'Espagne qui est un début de Géoula. Surtout que si on fait le calcul de la division des millénaires selon la nuit, le jour et tout le reste, alors, vous vous rappelez qu'on avait fait ce calcul? Eh bien, l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça sort à Tikkun Hatzot. C'est-à-dire, la journée commence quand? D'après les kabbalistes, elle commence à minuit. Parce que c'est le moment où le globe terrestre tourne du côté du soleil. C'est là que commence à apparaître la lumière, bien qu'elle n'ait pas ressentie. Donc, il y a eu effectivement quelque chose de vrai à ce propos. N'est-ce pas? Il y a eu un autre calcul, plus tard, qui disait que le Mashiach viendrait en l'année Tah. Tah, c'est-à-dire en l'année 1608. Non, pardon. 1648, pardon. En 1648. Effectivement, cette date est indiquée dans le Zohar. C'est ça? 1608. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1608? Il y a eu les massacres de Khmelnytsky dans les années Tartat, 1608-1609, où Khmelnytsky, qui était un cosaque, a ravagé toute l'Europe orientale et a assassiné en deux ans 300 000 juifs et a détruit de nombreuses anciennes communautés. Alors certains des maîtres de l'époque considéraient que c'était les Hevle Mashiach. Et, bon, vous connaissez l'histoire de Rabbi Shimshon de Ostropolie à ce propos. Vous ne savez pas l'histoire de Rabbi Shimshon de Ostropolie? Rabbi Shimshon de Ostropolie était un kabbaliste de l'époque qui avait prévu, qui avait vu dans le roi HaKodesh qu'en 1608, ça irait très mal. Alors, il a envoyé une lettre à Rabbi Shabtai HaKohen, l'auteur du Char, de Sifte Kohen sur le Shulchan Aruch. Il lui a dit, sache que j'ai vu dans le ciel qu'en 1608, ça va aller très mal, et qu'il y a un seul moyen de sauver les Juifs, c'est que toi et moi, nous acceptions de mourir al Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu. Et le Char lui a répondu que je suis occupé à écrire un livre sur le Shulchan Aruch, je ne peux pas. Et alors, donc, il y a eu les massacres, et Rabbi Shimshon d'Ostropolia a été assassiné, et le Char a dû s'enfuir. Dommage. Peut-être qu'on aurait pu sauver la vie des Juifs. En tout cas, il y a ce calcul. Après, il y a eu un autre calcul qui a été fait. C'était celui des élèves du Gaon de Vilna qui pensaient que le Mashiach viendrait dans l'année 1840, Tavresh. Parce que ça, c'est écrit dans le Zohar également, qu'à partir de l'année Tavresh, Israël serait ramené sur sa terre. Effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ils ont cru que ça voulait dire que le Mashiach viendrait. Et donc, ça a créé une grande déception qui a entraîné la conversion au christianisme de quelques-uns des élèves du Gorneville là. Après, il y a eu un autre calcul, celui du Malbim, qui disait que le Mashiach viendrait dans l'année Tavresh Lamedchet, c'est-à-dire 1878. Bon, ça s'est planté également. Il y a eu un autre calcul qui annonçait l'année 1914. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est mon vieux, celle que je préfère. C'est la guerre de 14-18. Et puis, après, il y a eu encore d'autres calculs. Non, il y a un calcul pour 1917 également. Pas mal. 1917, c'est quand même la déclaration Balfour. Quand même pas mal. Et puis, il y a également une tradition qui traînait dans les cercles secrets de Jérusalem, qu'en 1948, il se passerait quelque chose. Elle revenait également au Gaon de Vilna. Elle remontait au Gaon de Vilna. Cette interprétation, c'était en fait un développement de l'interprétation du Ramban. Effectivement, en 1948, il y a eu la Géoula. C'est quand même pas mal. Bon. Oui.
Si on voit tout cette histoire, on peut se dire que peut-être on se trompe.
Alors, non seulement, non, on ne fait pas ce qu'on veut parce que ça s'est passé.
Oui, mais dans 5 ans, on dira, ben, ils nous ont cru en 48, mais ils ont cru, ça veut dire que tout le monde a raison.
Tout le monde a raison, c'est-à-dire que ces dates étaient potentielles.
Non, chaque date revient bien à quelque chose.
Oui, ça correspond à quelque chose. C'est exploité pour exploiter. Alors, 1948, alors le Rabbi Lubavitch dit ce que tu dis. Le Rabbi Lubavitch dit qu'en 1948, Akadosh Baruch Hu a proposé au peuple juif de choisir soit Medinat Israël, soit le Mashiach. Et les Juifs ont choisi Medinat Israël, comme c'est dommage, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est une erreur, parce que 1948, ce n'est pas autre chose que la Géoula, c'est la Géoula elle-même. Donc on ne peut pas dire, là on s'est trompé, parce qu'on voit que ça s'est réalisé, n'est-ce pas?
Soit. Chaque époque qui a donné une date pense aussi...
Non, chaque époque qui a donné une date pensait que ça se réaliserait, ça ne s'est pas réalisé. Tandis que là, on a dit que ça se réaliserait et ça s'est réalisé. Une fois que c'est réalisé, on peut dire que ça ne s'est pas passé. Si on dit, voilà, madame, vous allez accoucher tel jour, et elle accouche, et ben on ne dit pas que c'est une erreur. Elle a accouché.
Mais certains pensent que
ce n'est pas la Géoula, parce qu'ils ont une conception christianisante de la Géoula. Pour eux, la Géoula n'a pas de dimension politique. Tandis que si on voit par exemple les textes du Ramban, mais encore d'autres textes, la Géoula, c'est un événement politique, le retour à l'indépendance. Or, ça s'est passé. Hein? Voilà. Oui. Eh bien, la Guémara dit qu'il ne faut pas... Rabbi Akiva, il s'est trompé. Mieux que Rambam et Ramban. Rabbi Akiva, comment? Le Gaon de Vilna, non, il ne s'est pas trompé. Le Zohar dit que quand se rapprochera le temps, même les enfants pourront faire le calcul. Oui, d'accord, mais enfin, Ouvda. Ouvda. Bon, là, je vous ai donné, dans un des derniers cours, je crois, la date de la construction du Beth Amikdash. Ça, je peux brisquer. D'accord? Même si ça ne marche pas, j'ai dit 2026-2027, n'est-ce pas? Oui, il y a ça aussi, non, mais... Oui, mais Shalom, d'après la Gemara, c'est le Beth Amikdash, donc ça va ensemble. Donc, vous aurez également... Donc, je peux vous annoncer le Beth Amikdash au plus tard pour 2026-2027, voilà. Hein? Mais non, si je me plante, vous pourrez toujours porter plainte. Pas de problème. D'accord? Enfin, chacun son truc, on fait des calculs. Vous savez qu'on a trouvé récemment des manuscrits de Newton, qui s'occupait également un peu de Kabbalah. Il a annoncé la fin du monde pour 2060. 2060, fin du monde. Hein? Bon.
Hein? La motivation, là,
c'est donc dans 53 ans. Oui.
Ouais. La motivation de tous les rabbins, c'est pour nous donner du courage.
Je sais pas. En tout cas, la Guémara, elle dit... La Guémara dit, il ne faut pas... Elle ne dit pas qu'il ne faut pas faire le calcul. Elle dit qu'il ne faut pas le dire. Mais Hachvé Kittim, après, parce qu'il décourage le peuple. C'est écrit, Shayu Omrim, parce qu'il disait, Kevan Shigia et Aket, Veloba, Shuvenoba. Puisque le temps du Ket est venu, et que le Mashiach n'est pas venu, il ne viendra plus. Alors c'est ça qui est décourageant. C'est-à-dire, si c'est fait de manière décourageante, dire c'est certainement tel jour que ça se passera et que ça ne se passe pas, alors là, effectivement, ça déçoit. D'accord? Oui. Les calculs, on se base sur les textes de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a beaucoup de versets qui parlent du temps que ça mettra. Le problème, c'est que les textes de Daniel ne sont pas clairs. Alors on peut faire des tas de pile-poulis. Oui, dans Kohelet aussi, on peut trouver. On peut chercher un peu partout. Mais c'est surtout dans Daniel qu'il y a les versets. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer votre temps avec un crayon et une gomme et puis faire les calculs à partir de Daniel. Non, on peut le faire arriver plus vite. Mais quand on dit Achakelo becholiom sheyavo, ça veut dire Achakelo becholiom, tous les jours je l'attends. Sheyavo, qu'il vienne. Ça veut dire. Oui. Même Daniel, oui. Pourquoi ça a été dit quand même? C'est pour qu'on sache qu'il y a un sens à ça. C'est par exemple, nous avons d'autres calculs de ce genre qui sont mentionnés dans le Tanakh lui-même et qui se sont réalisés. Par exemple, Akadosh Baruch Hu a annoncé à l'avance à Abraham que l'exil d'Égypte, ce serait 400 ans. Et il a annoncé à l'avance à Yirmiyahu que l'exil de Babylone, ce serait 70 ans. Donc il y a eu vraiment 400 ans, il y a eu vraiment 70 ans. Ça veut dire que le chiffre a un sens. Comment? Alors justement, tout le problème c'est Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham 400 ans, mais il lui a pas dit comment 400 ans. Alors il y a eu moins, ça a été 210 ans ou 215 ans, selon les différents midrashim. Et donc le midrash Yalkut Shimoni dit que lorsque Moshe est venu voir les Béné Israël et leur a dit bonjour, c'est moi. Alors, ils l'ont repoussé, les rabbins de l'époque ont repoussé l'opinion de Moshe au nom de l'orthodoxie. Ils lui ont dit, on n'a pas encore fini 400 ans, donc c'est pas vrai. Et alors, Moshe est allé voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je leur ai dit, ils ne veulent pas me croire. Et le Yalkut Shimoni dit que Akadosh Baruch Hu leur a dit, ne t'en fais pas, n'écoute pas leurs paroles, aré ani medaleg alehen, je les enjambe. Sheneemar kol dodi inezeba, medaleg aleari mekapet ala gevaot. La voix de mon bien-aimé enjambe les montagnes et les collines. Kevan shechafetz ligaolchem, puisqu'est venu le moment où il désire vous libérer, et no mabit becheshbonotechem, il ne regarde plus vos calculs. Alors comment se font les 400 ans quand même? Alors on retrouve rétroactivement que c'est depuis le temps de la naissance d'Yitzhak. Alors on considère que la galoute a commencé au moment où Yitzhak est né. C'est un peu énorme. C'est-à-dire, ça aurait très bien pu être vraiment 400 ans, point à la ligne. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est que ça doit être 400 ans. Comment ça se réalisera? C'est les conditions qui vont en décider. Par exemple, le Ben Ishraï explique que si la servitude n'avait pas été si dure que ça, eh bien, on serait resté en Égypte vraiment 400 ans. Mais, comme la servitude a été très dure, il a fallu nous faire sortir plus tôt. Et comme il a fallu nous faire sortir plus tôt, alors il faut faire le calcul autrement. D'ailleurs, cette double option existe dans le verset lui-même. Parce que Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, sache que tes enfants seront asservis dans un pays qui ne leur appartient pas, etc. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Et après il rajoute, Vedor Revi'i Yashuvuena. Et la quatrième génération reviendra ici. Comment une quatrième génération avec 400 ans, ça ne marche pas? Ça n'existe pas une génération de 100 ans. Ça veut donc dire que dès le départ, les options ont été mises en place. Ça sera soit 400 ans, soit 4 générations. Tout dépend des conditions. Alors, à quoi sert le chiffre? Eh bien, parce que c'est un chiffre qui est important du point de vue, si vous voulez, typologique. Il y a un sens au chiffre 400. De même que les 70 ans, par exemple, les 70 ans de l'exil de Babylone, il y a eu 5 manières différentes de calculer les 70 ans, dont 3 sont mentionnées dans la Bible elle-même. N'est-ce pas? C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Il y a 5 manières de calculer les 70 ans. 3 sont mentionnées comme véritables dans la Bible, et 2 par les Chachamim comme fausses. Par exemple, la manière dont Achashverosh a calculé les 70 ans, c'était une erreur. Et la manière dont Belshazzar a calculé les 70 ans, c'était également une erreur. Mais la manière dont Daniel et Divrei Hayamim et Haggai ont calculé 70 ans, chacun a calculé autrement, et peu importe, les 3 sont vrais. Ça veut dire que ce qui est important, c'est le chiffre 70. C'est comme si c'était le chiffre 70 cherchait à atterrir. Alors il attend que la tour de contrôle le laisse atterrir. Alors vient un moment où les 70 ans arrivent et ça cadre exactement avec ce qu'il fallait. Donc de même, les dates indiquées dans Daniel ont également un sens. Mais la manière dont ces dates se réaliseront, se concrétiseront dans l'histoire, ça dépendra des conditions. D'accord? Donc les dates ont un sens, mais on ne peut pas les calculer. Ça veut dire que l'histoire est relative. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières d'avoir 70 ans.
Mais l'histoire des 4 générations qui sont pas non plus, même avec 210 ans, 215 ans.
Et quoi, les 4 générations?
Oui.
Pourquoi? Ça marche très bien, les 4 générations.
Générations de 50 ans.
Non, tout simplement, 210 ans, c'est très bien. Non, il y a des gens qui ont vécu longtemps. Lévi est arrivé en Égypte. Après, il y a Kehat, son fils, Amram et Moshe. Ça fait 4 générations.
Au niveau
de Kehat est arrivé en Égypte.
Une génération, c'est pas une période. C'est
une génération.
C'est
oui.
Au niveau de la croix, il y a différents gramines dans l'histoire.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire que les dates qui sont données dans la Bible primophile, ça veut dire de. Pas uniquement de débloquer, mais de calmer. On a dit que le
c'est ce que dit Rambam, oui. C'est pour. C'est pour les tranquilliser aussi, leur dire, ouais, il y a encore le temps.
On sait que c'est volontairement faux, mais.
Non, que je pense que les gens qui ont calculé ça ont vraiment pensé que c'était possible. Ils n'auraient pas mis leurs mains au feu, mais ils pensaient que c'était possible. Très bien. Alors. Il faut simplement se déplacer un petit peu. Voilà. Bon. Ela hakelo. Il faut donc l'attendre. Chez Nehemar, car il est dit Imitma mea hakelo. S'il traîne, attends-le. Shema tomar anu mechakin veu eno mechake. Peut-être cela veut dire que nous attendons, mais que Akadosh Baruch Hu, lui, il n'attend pas. Talmud Lomar, c'est pourquoi on dit. C'est pour ça qu'un verset nous dit « Dieu attend de vous prendre en grâce et se lèvera pour vous prendre en miséricorde. » Puisque nous attendons la Géoula et que Dieu attend également la Géoula, qu'est-ce qui empêche? C'est-à-dire qu'il y a le désir des deux côtés. « Midat ad-din me'akevet » C'est la rigueur, la midat ad-din qui empêche. Alors, je vous donnais une interprétation ici du Rav Levi Nachmani, Zichrono Livracha, qui disait c'est quoi midat ad-din me'akevet. L'idée, ça veut dire qu'en vérité, nous n'attendons pas sérieusement. Il donnait l'exemple de quelqu'un qu'on réveille à 2h du matin et on lui dit est-ce que tu voudrais voir le Beit HaMikdash construit, tout Israël sur sa terre? Les prophètes parlaient, le Mashiach ici présent, des miracles, tu voudrais? Mais bien sûr, je voudrais. Est-ce que tu es prêt à te lever pour faire quelque chose pour ça? Il dit non, j'ai sommeil, il est 2h du matin. Donc, c'est ça, Midat Adin Me'akevet. C'est le fait que nous refusons de vraiment vouloir. Ce qu'il faut faire, il faut agir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Très souvent, des gens vous dites à des gens, j'ai une idée géniale, il faut faire ça et ça et ça et ça. Tu viens? Dis non, j'ai un cours. À cause du cours, je ne veux pas faire. D'accord? Des entreprises très importantes qui pourraient être faites. Par exemple, je ne sais pas si des gens vous ont demandé quelque chose à faire ce mercredi soir. Hein? Vous avez dit non, j'ai un cours avec Rav Shirky. Ben non, c'est dommage. Fallait aller. D'accord? Bon. Puisque la midat adin empêche à nous les mamechakin, alors pourquoi est-ce que nous attendons les kabel sachar? Parce que ça nous donne un mérite, un salaire. Shenema ashrei kol chochelo, ainsi qu'il est dit, taesh, tous ceux qui l'attendent. C'est-à-dire qu'il y a un salaire de l'expectative. C'est-à-dire, en d'autres termes, le fait d'avoir attendu le Mashiach, ça fait, veut dire le Mashiach aussi. D'accord? Amar Abaye. Abaye disait La pahod alma, le monde ne compte pas moins, mitlatin veshita tzadike, que 36 justes. Dimkabele ape shechina becholdara, qui rencontre le visage de la shechina en chaque génération. Shenema, ainsi qu'il est dit, Ashrei kol chochelo, heureux tous ceux qui l'attendent, lo begematria, le mot lo, à la valeur numérique de Tlatin Veshita Haavu, à la valeur de 36. Ça veut dire tous ceux qui attendent sont au nombre de 36 et qui rencontrent la Shekhina dans leur génération. Donc il y a 36 tzadikim de ce genre dans le monde. Pourquoi 36? Oui, mais pourquoi Maragimlo? On aurait pu calculer autrement. 36, c'est la moitié de 72. Dans le Sanhedrin, il y a 71. Il y a 71 tzadikim, chachamim, dans le Sanhedrin. Donc, 36, c'est la majorité. 71, avec le président du Sanhedrin. Donc, 36, c'est la majorité du Sanhedrin. C'est-à-dire, il doit y avoir une majorité parmi les chachamim de chachamim qui sont branchés sur la Géoula. Sinon, ça ne marche pas. Il faut donc qu'il y ait une majorité, donc 36 au moins. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, dans le livre de Yehoshua, lors de la conquête de la ville de Haï, alors il y a une première tentative de prendre la ville, il y a un échec, et là-bas on dit qu'il y a eu des pertes. Vayipol minaam kishloshim veshishaish. Il tomba du peuple environ 36 hommes. Alors c'est quoi environ 36 ? Environ 36, ça ne marche pas ça. Environ 35, d'accord, mais environ 36, c'est un chiffre trop précis. Alors la Gemara dit qu'en fait, c'était un seul homme. C'était Yahir ben Menaché, chez Shakul Keneget Hetziach du Sanhedrin, qui avait la valeur de la moitié du Sanhedrin. C'est ça, 36. C'est-à-dire, il y a parfois un homme qui vaut 36 à la fois. Par exemple, je rappelle que quelqu'un, une fois, a demandé au Rav Tzvi Yehuda Kouk qu'est-ce qui répond à l'argument comme quoi son père, le Rav Kouk, était Da'at Yahid. Alors, c'est Da'at Yahid, c'est-à-dire l'opinion d'un seul. Réponse du Rav Tzvi Yehuda, ou Yahid, il est unique. D'accord ? Il est unique contre tous les autres. Il est Yahid. Il est exceptionnel. D'accord ? Ça aussi. Bon. C'est-à-dire, du temps du Rav Kouk, on n'avait pas besoin de 36, il suffisait d'un seul. Non, c'est toujours comme ça, ce que dit la Guimara. Il y a toujours. Le monde ne peut pas vivre s'il n'y a pas 36 tzadikim qui attendent la Géoula. C'est-à-dire qu'ils sont branchés là-dessus. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ne se satisfont pas de l'état actuel du monde et qu'ils veulent transformer le monde. C'est ça les 36 tzadikim. De temps en temps, on apprend un tel faisait partie des 36. Et par exemple, un rap que j'ai connu à Malé Adoumim, le Rav Baruch Shapira, Zichrono Livracha, lors de son enterrement, le Rav Mordechai Eliyahu a dit c'était un des 36. Ouais.
Bon, c'est que posthume ?
Non, non, il y en a qui le savaient avant. Moi, je le savais avant, par exemple. On pouvait, enfin, personne ne me l'a dit, mais enfin, quand on connaissait le personnage, on ne pouvait pas ne pas être très impressionné par la personnalité. Il était un genre quasi prophétique, quoi. Certains le connaissent, enfin certains ont étudié ses textes, etc. Des choses absolument incroyables. Assez intéressant. Bon.
Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui on connaît les 36?
Est-ce qu'aujourd'hui on connaît les 36?
Est-ce
qu'ils existent? J'en sais rien. On dit qu'un des 36, c'était. En Pologne, il y avait un moment un raf qu'on appelait Rabbi Yosef Mocher Irakot. Rabbi Yosef, le vendeur de légumes. C'était un rave, et le Chida raconte ça dans le Shema Gdolim, c'est une histoire bien connue. Il vendait des légumes. Il avait comme ça un rayon de vendait des légumes toute la journée. Et personne ne savait que c'était un Talmid Chacham. Ce n'est que lorsqu'il est mort qu'on a découvert qu'il avait des quantités incroyables de livres qu'il avait écrits en secret, etc. Il vendait des légumes. Donc, quand vous promenez à Machane Yehuda, cherchez. Une fois, j'étais comme ça à Mea Shearim, je suis rentré dans un magasin qui vendait des bricoles, très bien quoi, des montres, machin comme ça. Et j'ai surpris le vendeur avec un livre sous ses montres, un livre de Kabbalah. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Non, tu ne veux pas savoir. Donc vous en avez des comme ça. Il y a un bouquin, Le Dernier des Justes, qui a été écrit par Schwarzbart. Enfin, c'est du romancé, ça. Et ni, comment? Tu dis qu'il n'y en a vraiment que 36? Vea amar Rava. Or, Rava disait, Dara de kame kucha berichu, les rangées qui sont devant l'Éternel, sont tamnesare alfe parsa avai. Sont 18 000 parasanges, c'est-à-dire c'est une quantité énorme. Chez Nehemar, Saviv Shmona Asar Aleph. L'Akashia. Ha de Mistakle Bispaklaria Mira. Ha de Mistakle Bispaklaria Shena Mira. Il y en a qui regardent dans le miroir lumineux. Il y en a qui regardent dans le miroir qui n'est pas lumineux. C'est-à-dire, il y en a très peu, il n'y en a que 36 qui voient les choses de manière lucide. Il y a beaucoup de tzadikim. Il y en a que 36 qui voient de manière lucide. Ou Menefiché Kuleaï. Comment? Il y en a vraiment tant que ça, 36? Vea Amar Hiskia Amar Rabbi Yirmiyah Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai disait: Raiti bene Aliyah ve Moatim. J'ai vu des ceux qui montent, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'étage supérieur. Il y en a très peu. Im Elefhem, s'il y en a 1000, Ani Uvni Mehem, moi et mon fils nous en faisons partie. Im Meahem, Ani Uvni Mehem, s'il y en a 100, moi et mon fils nous en faisons partie. Im Shtaim Hem, Ani Uvni Hem, s'il y en a que 2, c'est moi et mon fils. Donc il peut y en avoir que Dieu, que 2. L'Akashia, Hadeaile Bevar, Hadeaile Beovar. Il y a différence entre ceux qui peuvent entrer après avoir reçu l'autorisation, ils peuvent rencontrer la Shrina, mais ils doivent d'abord frapper à la porte. Il y a qui rentrent, ceux qui rentrent quand ils veulent, alors ça, il y en a moins que 36, il peut n'y en avoir que 2. Ça peut être Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. Ça peut dire qu'il y en a de temps en temps, quelques-uns comme ça. On dit que de temps en temps dans l'histoire, il y a des êtres exceptionnels, parfois ça prend des siècles avant de se manifester. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai était un de ces personnages qui était très au-dessus de leur génération. On peut avoir l'exemple du Harizal, etc. Des gens des personnes de ce genre qui sont envoyées dans leur génération, mais qui dépassent de très très loin. Alors ça, il y en a moins que 36. Et parfois, il n'y en a pas du tout. Oui. Oui, mais pas tous les âmes de Tanaïm. Même les Tanaïm n'étaient pas tous de ce niveau-là. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen. Rabbi Hanania.